Nous continuons avec vitalité, dans les deux sens du terme, le parcours vitalité, puis avec notre vitalité, notre série sur les indices bibliques d'une vie chrétienne et d'une vie d'église qui serait en bonne santé spirituelle. Alors, grâce à mon fils Julien, j'ai appris un nouveau mot, celui de sémiologie, qui est l'étude des signes et des symptômes. Alors, c'est en médecine. Mais en vie chrétienne, on peut se poser la question, quels sont les signes ou les symptômes, ou les signes, disons, les marqueurs qui nous indiquent que nous sommes en bonne santé? Voilà une question qu'elle est bonne, comme disait Desproges. En bonne santé, c'est-à-dire qui suit le Christ, qui cherche à imiter le Christ, à être un disciple. Missionnaire, ça veut dire qui répond à son appel, à la mission qu'il donne à chaque chrétien d'être un témoin dans le monde. Et le parcours vitalité n'a rien inventé. Les 10 marqueurs que nous voyons dans cette série de prédications viennent de la Bible. Et je vous rappelle les 7 premiers, puisque nous sommes au 8e. Alors, premier marqueur, la Bible au centre de la vie chrétienne, de ma vie personnelle et de la vie d'Église. Une marche avec Christ qui change quelque chose dans ma vie, qui transforme la vie. Ça, c'est un marqueur important de bonne santé. Si ça ne change rien, on n'est peut-être pas en bonne santé. Une détermination à évangéliser. Une compassion pour le monde. Une ouverture sur l'extérieur. Une communauté chrétienne attirante. Et une vie chrétienne attirante, un culte enthousiaste et édifiant, et aujourd'hui, le dernier, la générosité. Une vie caractérisée par la générosité et le don de soi. Voilà le 8e indice, le 8e marqueur d'une vie chrétienne, d'une vie d'église saine et missionnaire. Alors, on n'est pas tous égaux devant la générosité. Il y a une question de culture ou une question de nationalité. Les Néerlandais, que je suis à moitié, ne sont pas réputés pour leur générosité. Les restaurateurs français le savent quand ils ont des touristes néerlandais. Mais quand je vois les Écossais qui ont la même réputation ou même pire, oui, quand je vois Ian Newberry qui est passé ici il y a 15 jours, qui est Écossais, quand je vois qu'il a fait preuve de tant de générosité pendant le week-end, il a offert, je pense, 4 ou 5 livres gratuitement. Il nous a offert le restaurant à Yvonne et à moi. On ne lui avait rien demandé. On avait préparé le repas pour lui. Enfin, pas préparé, mais on avait prévu le repas pour lui. Et comment il s'est donné généreusement à travers son séminaire et le dimanche matin. Au séminaire, vous n'étiez pas tous là, mais il nous a fait 10 pompes. Il a 66 ans, Ian Newberry. 10 pompes. En citant les attributs de Dieu entre les pompes. Alors, il a mis un petit temps pour récupérer. Moi, j'ai eu un peu peur. Mais il s'est donné. Et quand je vois Ian Newberry, l'Écossais, tellement généreux, je me dis que les réputations ne tiennent pas la route devant la puissance de transformation de l'Évangile. Oui, l'Évangile peut rendre un Écossais généreux. Alléluia! Rien n'est perdu pour la moitié de Néerlandais que je suis. Bon, mais cette générosité, ce don de soi, comment le vivre? Et comment en parler sans tomber dans un discours moralisateur et un peu enfantin? Il faut savoir donner, etc. Eh bien, le texte biblique qui accompagne le 8e indice dans le parcours vitalité, donc vous pouvez prendre ces brochures qui sont derrière, et vous avez les indices là, recto ou verso, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et le texte, c'est Romains 12, versets 1 à 8. Et il va nous permettre de parler bibliquement de cette générosité et d'abord de lui donner un contexte. Un contexte pour la générosité, un contexte qui change tout. Et ce contexte, on le trouve dans un tout petit mot du verset 1 de Romains 12. Dans le petit mot, je vous lis ce qu'il y a sur l'écran. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir, etc., etc. à faire preuve de générosité. Et le petit mot, vous l'avez saisi, c'est le mot « donc ». Et cette petite proposition, préposition plutôt, fait suite, quand on dit « donc », ça fait suite à quelque chose. Et là, ça fait suite aux 11 premiers chapitres de l'épître, de la lettre que Paul a écrite aux Romains. Et dans ces 11 premiers chapitres, il parle du salut en Jésus-Christ. De qui peut obtenir ce salut, de comment on peut obtenir ce salut, de la durée de ce salut. D'un salut offert gracieusement, c'est-à-dire gratuitement, à toute personne qui ose croire en Jésus-Christ. Un salut où Dieu se donne entièrement dans la personne de son Fils. Comme le dit Jacques, peut-être le frère de Jésus, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, et le don parfait, c'est celui de Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, la croix, et vient d'en haut du Père qui est généreux. La générosité de Dieu et la croix, le salut, est une manifestation de la générosité de Dieu, car Dieu est généreux. Et on le voit aussi dans la parabole, par exemple, du fils prodigue. Le père qui accueille cet enfant qui s'est rebellé contre lui, qui l'accueille en faisant tuer le veau gras, en lui donnant sa robe. Extraordinaire. D'ailleurs, le fils aîné n'est pas très content de ce... C'est de l'argent lancé par les fenêtres. Mais le père répond en parlant de la joie qu'il a de recevoir son fils perdu, ce fils maintenant qui est sauvé. Et ça, c'est l'image de Dieu. Et un des auteurs très connus aujourd'hui, Timothée Keller, parle non pas de la parabole du fils prodigue, mais de la parabole du père prodigue, du Dieu prodigue, qui prodigue les choses, qui les dispense, qui les donne. Notre Père, notre Dieu est un Dieu généreux, et c'est bien à cause, comme le dit le verset 1, à cause de cette immense bonté de Dieu que Paul peut et va inviter le croyant à faire preuve de générosité en s'offrant lui-même, à s'offrir lui-même. Je vous invite donc, frère, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Alors, il parle effectivement de sacrifice, et c'est toujours, cette notion est toujours un peu intrigante, inquiétante même, un sacrifice, parce qu'il y a l'idée de sang derrière. Mais Paul, il faut le savoir, à l'époque, parle dans des catégories de pensée habituelles. La religion, à l'époque, est faite de sacrifices d'animaux, et donc il parle, pour bien se faire comprendre, dans ces catégories-là. Mais l'Évangile apporte une nouveauté dans cette religion, dans cette relation avec Dieu. C'est un sacrifice vivant. Je reste vivant en tant que sacrifice, parce que c'est de cela dont il est question, c'est moi en sacrifice. Je reste vivant parce que Jésus est déjà mort sur une croix, pour moi, pour nous donner le pardon et la vie nouvelle qui suit ce pardon. Le sacrifice d'expiation, excusez-moi de ce mot, mais c'est ça, a déjà eu lieu. Et donc je suis un sacrifice vivant. Et il y a aussi dans l'Ancien Testament, et avec Yvonne on lit le livre des Nombres et on est étonné de la générosité des sacrifices dans l'Ancien Testament. Et dans ces sacrifices, il y a aussi celui du sacrifice non sanglant de reconnaissance. Un sacrifice de bonne odeur et qui manifeste comme un cadeau que l'on offre à Dieu et qui manifeste notre adoration et notre reconnaissance. Un cadeau d'amour, comme on le chante. Reçois ma vie comme un cadeau d'amour. C'est ça, le sacrifice. Et il est important de se souvenir, quand on parle de la générosité et du don de soi, de se rappeler du contexte, c'est-à-dire de la bonté et de la générosité de Dieu, de la grâce de Dieu. Et si elle n'est pas prise dans ce contexte ou comprise dans ce contexte, la générosité, notre générosité, devient une sorte d'obligation morale. Elle devient aussi une tentative de manipuler l'autre, par exemple. Devient en quelque sorte une course au mérite. T'as vu comme je suis généreux. Et il faut toujours se recontextualiser cet appel à la générosité, on pourrait même dire recadrer. C'est parce que Dieu est bon envers moi que je veux être généreux dans ma vie. Voilà donc le contexte de la générosité. Et quand on continue la lecture de Romains 12, on voit que Paul va proposer un champ d'application pour cette générosité et ce don de soi en parlant des dons spirituels. C'est étonnant, ce rapport. Offrez votre vie, et puis après, les dons spirituels. Les fameux charismes, en grec, les charismata, qui ont donné le terme charismatique pour une certaine partie de l'Église chrétienne. Et le mot apparaît au verset 6. « Et Dieu nous a accordé par grâce des charismata différents, des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qui se consacre à ce service. Et puis, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement, eh bien, qui l'enseigne ? Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement, eh bien, et qui l'encourage ? Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Alors on parle souvent de ces dons spirituels qui sont donnés à chaque chrétien. En rapport avec le service, ces dons, c'est pour le service. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait justifié, mais il est intéressant de les voir, ces dons spirituels, sous l'angle de la générosité. L'exercice de mes dons spirituels que chacun a reçus par grâce, première ligne. Par grâce, encore une mention de la générosité de Dieu. Et donc, l'exercice de ces dons spirituels fait partie de cette générosité dont on parle. C'est l'expression, non pas du devoir de service, mais de la générosité que Dieu a eu à mon égard et que je veux maintenant manifester à ceux qui m'entourent à cause justement de la bonté de Dieu. C'est être généreux et non pas impliqué dans le service, non pas seulement impliqué dans un service, c'est être généreux que d'utiliser ses dons pour le service des autres dans l'Église. Alors nous avons plusieurs listes de dons spirituels dans la Bible, c'est facile, il suffit de retenir les livres bibliques. Mais ils sont dans 1 Corinthiens 12, Romains 12, Éphésiens 4, 1 Pierre 4. 12, 12, 4, 4. Après, il faut retenir les livres. Et ces livres, ces listes ne sont pas exhaustives, mais l'important, c'est de savoir que nous sommes appelés à exercer nos dons spirituels dans l'Église pour être en bénédiction, parce que c'est ça, être généreux, pour être en bénédiction pour les autres. Dieu nous donne des ressources, des talents, des possibilités, des dons, des charismatas, pas seulement pour nous épanouir ou réaliser notre potentiel, comme on dit dans les sociétés aujourd'hui, mais aussi et surtout pour faire du bien aux autres. Nous avons tous comme vocation à bénir les autres, à être en bénédiction pour les autres. Et tous, nous recevons de Dieu de quoi aimer concrètement. Il nous donne de quoi aimer concrètement ceux qui nous entourent, comme dans un corps où chaque membre est utile aux autres. Que ce soit à l'échelle locale, l'Église locale ou universelle, chacun a sa place et ses dons pour faire du bien à d'autres membres. Nous avons tous quelque chose à donner aux autres. Et on peut voir les dons spirituels de Dieu non pas uniquement comme des choses qu'il nous donne, mais comme des choses qu'il nous appelle à donner aux autres. On peut voir les dons spirituels de Dieu non pas uniquement comme des choses que Dieu nous donne, mais comme des choses qu'il nous appelle à donner aux autres. Et c'est une manière, dans la grande sagesse et dans la grâce infinie de Dieu, c'est une manière que Dieu a trouvée de nous impliquer pour nous impliquer dans son œuvre d'amour. Il nous rend partenaires de sa générosité. N'est-ce pas fantastique ? Quelques remarques sur les dons. Parfois, on les cumule, les dons. J'ai déjà parlé de Pat Berning. Moi, il m'a dégoûté. Il avait tous les dons. Il joue super bien de la guitare. Il chante bien. Et en plus, il peint. Et en plus, il manie bien l'ordinateur. Et en plus, il est encourageant. En plus, il dégage beaucoup de douceur. Ça fait beaucoup pour un seul homme, moi, je trouve. Il y en a qui cumulent. Mais parfois, aussi, dans les dons, on change, on évolue. Tout n'est pas figé. Avec le temps, l'expérience, l'évolution de notre personnalité, nos ressources changent et nous pouvons servir les autres d'une manière différente. Et être une église saine, me dit que c'est une église qui accueille les différents dons et qui sait surtout être patiente. Patiente pour aider chacun à discerner comment il peut servir. Parce que, et j'avais trouvé intéressante cette image, les dons spirituels ne s'impriment pas comme une liste ou comme un code barre sur notre front quand on devient chrétien. Il n'y a pas qu'on passe au scanner et puis on sait, ouais, ben celui-là, il est bon pour ça. Non, tout ça évolue. Tout ça bouge. Il faut discerner, ça prend du temps. Et parfois, il y a des flottements qui sont inévitables parce que pour discerner, il faut essayer certaines choses. Et de temps en temps, on se rend compte que tel rôle n'était pas vraiment fait pour nous. D'ailleurs, même pour les services qui correspondent à nos dons, il faudra un temps d'apprentissage et donc parfois un petit peu de tâtonnement. Et ça paraît évident. Mais parfois, notre peur de l'échec ou notre peur de déshonorer Dieu avec un service mal rendu nous fait parfois reculer et tout arrêter. Bon, j'arrête les frais. Alors qu'avec un peu de persévérance, on y arrive. De la patience, de la persévérance dans l'exercice des dons spirituels. Alors ici, dans le texte de Romains 12, Paul se concentre sur la prophétie, sur la prise de parole au nom de Dieu pour les gens aujourd'hui. Alors, cette prophétie, ça peut être sous la forme d'une révélation particulière ou simplement d'un conseil qui viendrait à point, une parole adéquate. Bien, ce mot « adéquat », c'est ça la prophétie, c'est la parole adéquate pour cette circonstance présente, pour ce temps opportun, qui peut venir lors d'une présidence ou d'une prédication, ou même d'une petite discussion. Et lors des témoignages des baptisés, la semaine dernière, on a entendu parler d'une petite phrase dite de manière, une petite phrase anodine, mais qui a fait un déclic dans la vie de la personne, qui a ouvert une porte. Alors, il y a aussi les dons de la parole, l'enseignement qui restitue les données bibliques ou celui de l'encouragement qui réconforte, qui console, qui ranime celui à qui nous parlons. Et puis, il y a les dons liés au service mutuel, la présidence que celui qui préside, qui pourrait se traduire par la prise de responsabilité. C'est pro-histémie en grec, celui qui se tient devant et qui a besoin de le faire... Avec sérieux, je cherchais, c'était tout en bas de la page, que celui qui préside le fasse avec sérieux. Et puis, il y a une question de la libéralité de celui qui donne, tout à la fin, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Parlons, je crois qu'il est intéressant de parler, quand on parle de générosité, de parler aussi de la générosité financière. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr. Mais de dire aussi que tout ce qu'on dit sur la générosité, par exemple, dans les dons spirituels, s'applique aussi dans la générosité pour financière. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir s'exercer dans le contexte de la générosité de Dieu, de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, comme un signe de reconnaissance et rien d'autre. Un geste de reconnaissance. C'est parce que Dieu nous a enrichis que nous voulons lui donner, lui rendre une part de notre argent. Et Paul en parle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitres 8 et 9, qui sont consacrés à la générosité financière. Et il dit, ce n'est pas un ordre que je vous donne. Il parle des finances, hein. Mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, quels sont ces autres ? Ce sont les Macédoniens, ceux qui habitent en Macédoine. Là, il s'adresse aux Corinthiens qui habitent en Grèce. Là, on parle de la Macédoine en haut, des Philippiens. Eux, ils étaient généreux. Les Corinthiens, ils ont un petit peu de mal. Mais Paul, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Il aimait un peu. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et plus loin, il va dire, vous avez pris l'initiative de ce soutien financier, et maintenant, achevez de le faire. Le don financier comme une réponse à la grâce de Dieu. vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Le contexte pour toutes les expressions de notre générosité, que ce soit les dons spirituels ou les dons financiers, c'est la grâce de Dieu. Alors il y a des gens qui ont un don particulier pour le soutien financier, pour la générosité financière, pour la libéralité. Dans la Bible, on peut penser à Barnabas. Barnabas qui est connu d'abord pour quoi ? Pour quel don ? Celui de l'encouragement. Il a encouragé Paul, il a encouragé Jean-Marc, un encourageur de première. Mais aussi pour sa générosité, c'est lui qui vend son champ et qui remet l'argent aux apôtres pour lancer la première église. Un don de générosité, Barnabas. Il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, Yann Newberry et ma mère, avec ce don de générosité. Et il y en a d'autres dans l'église. Je ne vais pas citer des noms, mais... Et qui ont cette capacité particulière de donner quand il faut, où il faut, avec une simplicité qui fait plaisir à voir, et ils sont réellement une bénédiction pour les autres. Mais si certains ont ce don-là, nous sommes tous appelés à faire preuve de générosité dans ce domaine. Et je vous rappelle, comme ça, en passant, le dernier point de notre charte d'engagement au niveau de l'Église, cette charte qui est là, en bleu, et qui est affichée plusieurs fois dans l'Église, et qui dit dans son dernier point, reconnaissant, c'est-à-dire, pas simplement reconnaître, mais d'être dans la gratitude, reconnaissant de la sollicitude de Dieu à notre égard, nous voulons, par notre participation financière libre et régulière, libre, libéralité, contribuer à l'équilibre du budget nécessaire et à la réalisation de notre objectif, ensemble. Et depuis 25 ans, on a fêté l'anniversaire des 25 ans, cette Église a bénéficié de la générosité des uns et des autres, la générosité de l'Église d'Orthez, la générosité de l'Union des Églises évangéliques libres, la générosité de l'Église de Westside Church, de l'Église des Copoc en Amérique, de la générosité des membres et des sympathisants, de votre générosité actuelle, et on peut être reconnaissant. Et il faut continuer à être reconnaissant et être aussi généreux là, avec cette petite mise en garde de Paul quand même, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, sans calcul, avec une autre traduction, avec une pleine générosité. Alors, quelles pourraient être ces arrière-pensées ? On a un exemple avec le chat, une pensée du chat. S'il existait des billets de 0 euro, j'en donnerais à ceux à qui je ne dois rien. C'est pas vraiment... c'est une pensée du chat de Philippe Gueluc. Mais une arrière-pensée fréquente serait de penser qu'en donnant, je fais de Dieu mon obligé. Si je donne à Dieu, il se doit de faire attention à moi d'une manière ou d'une autre. Il doit me bénir en retour. C'est une arrière-pensée très arriérée. Et on ne l'énonce même pas, on n'ose même pas penser que l'on pourrait penser ça. Mais cette pensée d'un commerce avec Dieu, d'un deal avec le grand boss, elle peut être présente dans l'arrière-cour de notre âme. Faire de Dieu son obligé. Alors autre arrière-pensée, penser que donner me donne des droits. Ou que donner, au contraire, me dispense de ceci ou de cela. À chacun son risque d'arrière-pensée. Mais Paul nous demande de donner sans arrière-pensée. Et la meilleure façon de ne pas avoir d'arrière-pensée de ce genre, c'est de retourner au contexte du don et de la générosité. C'est-à-dire, et je me répète, mais je le fais à dessein, celui de la grâce, celui de la gratuité en Jésus-Christ. Et il nous faut le faire, ce détour, par la grâce le plus souvent possible, parce que nous vivons dans un monde où le geste gratuit n'existe pas, ou peu, ou de moins en moins, où tout est commercialisé, marchandisé, où tout fonctionne au mérite, et il faut pouvoir se démarquer de cela avec l'aide du Saint-Esprit, qui est aussi appelé dans l'Épître aux Hébreux, je crois, l'Esprit de la grâce. C'est comme au rugby, il faut jouer dans l'Esprit. Dans l'esprit du jeu, il faut aussi savoir, dans la vie chrétienne, donner dans l'esprit celui de la grâce. Là, dernier point, la générosité et ses limites. Il y a Paul, dans son dans le paragraphe de Romains 12, donne une recommandation qui peut un peu surprendre. En vertu de la grâce qui m'a été faite, ou que Dieu m'a faite, voilà ce que je dis à chacun d'entre vous, ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Il faut le relire plusieurs fois, peut-être. Et ce que Paul nous dit, semble-t-il, c'est de, dans notre générosité, dans notre don de soi, de nous, de s'évaluer soi-même avec sagesse et de prendre la mesure. Et la mesure semble être celle de la foi, selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Et on peut comprendre l'expression par à la mesure de l'Évangile dans lequel nous croyons. Et que dit l'Évangile ? C'est que nous sommes tous également bénéficiaires de la grâce de Dieu. Tous égaux devant lui en ce qui concerne la grâce. Du coup, nos dons, reçus ou donnés, ne jouent pas sur notre valeur, comme si nous étions mieux que les uns que les autres, mais nous sommes bénéficiaires de la même grâce et qui va ensuite se manifester de différentes façons. Il s'agit donc de l'humilité dans la générosité, dans le don de soi, dans l'exercice des dons spirituels. Tellement importante dans la vie chrétienne, et cette humilité, elle ne peut se vivre réellement que dans la conscience, encore une fois, que tout nous vient de Dieu. Et Paul le dit aux Corinthiens qui, décidément, avaient quelques problèmes dans leur vie chrétienne, qui n'étaient peut-être pas en bonne santé, selon les 10 critères. Paul leur rappelle, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Et dans l'original, le verbe se glorifier, c'est le verbe se gonfler comme le crapaud gonfle son jabot. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ceux qui ont fait SVT pourront me le dire, mais ils se gonflent d'importance. Il y a d'autres mâles pour faire la cour qui se gonflent et qui prennent deux fois leur volume. Puisque tu l'as reçu, pourquoi te gonfler d'importance, puisque c'est un don de la part de Dieu? Et le terme même de don spirituel, de charisma, contient le mot charis, qui est le mot grâce. Et donc, c'est Dieu qui donne. Je ne vais donc pas me prendre la grosse tête dans l'exercice de mes dons. L'humilité. L'humilité pour éviter le gonflement de cheville, comme on dit en France. Vous savez qu'en Belgique, c'est le cou qui gonfle. Mais en France, c'est les chevilles qui gonflent. Je ne sais pas pourquoi. Mais aussi l'humilité dans un autre sens. L'humilité de reconnaître ses limites. De reconnaître qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'on fait partie d'un corps, comme le dit le texte de Romains 12, et que l'on est ensemble dans ce corps qui est solidaire et dépendant. Et je pense qu'il est important, dans le don de soi, dans la générosité aussi, de connaître ses limites. Et on les connaît peut-être, ces limites, ou peut-être pas. Et je me dis qu'il faut peut-être faire appel au Saint-Esprit, « Seigneur, enseigne-moi mes limites ». Et on peut peut-être faire appel à l'équipe, la communauté des croyants, la communauté des gens doués pour le service, la communauté des gens charismatiques, c'est-à-dire qui ont des charismatas, dont celui de discernement aussi, pour pouvoir m'évaluer et me dire, est-ce que je suis dans mes limites ou pas? Est-ce que je suis au-delà de mes limites ou peut-être au-deçà, trop en deçà de mes limites? Pour certains, on a encore plein de marge. Et la Bible, quand je parle de limites, je pense que je suis biblique dans le sens où la Bible n'est pas contre l'équilibre, contre le dosage, contre le bon sens. Je termine. L'Évangile nous proclame l'amour de Dieu. Notre réponse, c'est la gratitude. Le don de nous-mêmes, la générosité est un incontournable dans la vie chrétienne parce que Dieu a été généreux envers nous. Sa générosité est notre raison d'être, la source et le modèle de notre vie nouvelle. Tous, nous sommes concernés par cet appel à la générosité. D'abord, dans notre attitude d'amour et de patience et de bienveillance à l'égard des autres. Ensuite, par nos ressources, offrande de nos biens, de nos talents, de notre temps aussi, valeur précieuse aujourd'hui. Parce que Dieu nous rend, quel honneur, partenaire de son œuvre de bénédiction, partenaire de sa grâce.